Deuxième partie aujourd'hui dans Side Tracks de ma conversation entamée la semaine dernière avec Fabrice au sujet du rappeur américain Future. Au programme de ce deuxième numéro, on s'intéresse plus particulièrement à la production et au son des morceaux du rappeur, au rap emo qu'il pratique et on termine avec des suggestions pour vous, avec un clin d'œil à des podcasts brillants à aller écouter en ligne de toute urgence.
Un pour l'argent, 2 pour le spectacle, 3 pour le game.
Classe, man. Top of the pop. C'est du journalisme total.
Alors peut-être une autre spécificité du son de Future, enfin peut-être pas spécificité, mais en tout cas un trait qu'il partage avec beaucoup d'autres artistes contemporains, c'est son utilisation de l'autotune.
Le sujet qui fâche.
En quelques mots déjà, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas vraiment cette nouvelle forme d'instrument, on va dire, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est l'autotune et son utilisation actuelle, en tout cas dans le rap et peut-être plus particulièrement par Future?
Alors, Autotune, c'est à l'origine un plugin qui est disponible sur le logiciel de studio qui s'appelle Pro Tools, qu'une majorité des producteurs utilisent, que ce soit dans le rap ou ailleurs d'ailleurs. Et c'est donc un plugin qui est disponible et qui permet de modifier les voix, de modifier la tonalité des voix. C'est en gros un logiciel qui permet de retravailler informatiquement la voix. Dans le contexte du rap, ça se place dans l'héritage de deux autres manières de modifier la voix, qui étaient la talkbox et le vocoder.
Le vocoder, par exemple, qui est utilisé par Daft Punk, qui est un petit peu différent de l'autotune, parce que le vocoder permet de mélanger deux sons en particulier, donc par exemple se faire accompagner par sa propre voix, mais dans une tonalité différente. Alors que d'après mes sources, l'autotune, ça serait plutôt de corriger la fréquence de la voix pour atteindre justement des fréquences non atteignables naturellement par la voix humaine.
Exactement, tu l'as dit mieux que moi. Et donc, pour le faire très rapidement, le premier groupe à utiliser Autotune dans un morceau de manière visible et évidente, c'est Cher. Et ensuite, beaucoup, les chanteurs de rail, des chefs à l'aide, ce genre de chanteurs qui l'utilisaient énormément avant que ça émerge dans le rap. Est-ce que je m'aventure à faire un historique de l'autotune dans le rap? Je ne sais pas. Enfin, pour le dire vite, les deux grands noms à retenir qui en font vraiment, qui le démocratisent comme un outil à part entière dans le rap, c'est Lil Wayne, sur toute la période qui a précédé la sortie de son album Carter 3, où il utilise l'autotune pour modifier sa voix, enfin, pour retravailler sa voix et se permettre des formes de rap différentes. Mm-hmm. Mais Lil Wayne, en fait, lui, utilise toujours l'autotune en rappant, c'est-à-dire qu'il s'en sert pour modifier sa voix, mais garde ses préoccupations principales, ça reste le flow et le rythme, en fait. Et ensuite, le deuxième album qui est très important de ce point de vue-là, c'est 808s and Heartbreaks de Kanye West, qui pour le coup est un album où on voit vraiment l'utilisation de l'autotune comme manière de retravailler la voix pour créer des mélodies, et comme tu disais, des mélodies qui seraient en fait impossibles à produire pour la voix humaine.
Justement, est-ce que ça... Alors pour les détracteurs un petit peu de l'autotune, ça introduirait une sorte d'artificialité ou de dénaturation de la voix. Est-ce que tu la sens, cette artificialité, dans certains titres ou alors c'est quelque chose que tu trouves très convaincant et l'argument de la dénaturation ne tient pas?
Alors moi, l'argument de la dénaturation, il me gêne toujours un peu. Une comparaison que je fais souvent, c'est que c'est le même genre de posture qu'on a adopté quand on a commencé à mettre de la distorsion sur des guitares dans le rock. Et on a dit, ça dénature la musique, et c'est des gens qui ne savent pas jouer de musique parce qu'ils utilisent des effets. Là, c'est pareil, en fait. Pour moi, le problème de beaucoup de gens avec Autotune, c'est qu'ils le voient comme, ils voient ce logiciel comme un espèce de cache-sexe qu'on utiliserait pour masquer le fait qu'on ne sait pas chanter. Ça, pour moi, c'est une position qui ne tient pas trop, parce que ce serait comme dire... Enfin, dire j'écoute pas ce morceau où ce chanteur utilise l'autotune, c'est comme dire j'écoute pas ce groupe, ils ont une guitare. Et c'est un formidable outil qui permet de... En fait, très paradoxalement, c'est un outil qui serait censé, on dit souvent que ça robotise la voix, et qui en fait permet de faire passer, moi je trouve... Enfin, c'est peut-être une opinion personnelle pour le coup, mais qui permet de faire passer des émotions avec de manière incroyablement directe, en fait.
Donc pas de mise à distance entre ceux qui écoutent et celui qui chante. Pour toi, ça met pas de distance, quoi.
Je trouve même au contraire que ça réduit la distance. On prend même des rappeurs comme Future en France, encore un nom qui va faire criser les gens qui sont allergiques à l'autotune, mais un groupe qui fait ça très très bien, c'est PNL. qui, et pour le coup, leur utilisation de l'autotune, la manière qu'ils ont notamment de l'utiliser pour allonger et étirer au maximum la voix, ça fait passer, ça transmet, je trouve, très bien cette espèce de souffrance, encore une fois, de dépression qui traverse leur musique, où encore une fois, c'est des gens qui vont quand même vraiment pas bien. Et c'est pour moi, l'autotune, en fait, loin d'instaurer une distance entre l'auditeur et l'artiste, au contraire, ça fait une forme de lien, ça expose les émotions de manière plus directe.
Pour revenir un petit peu à Future, est-ce qu'il y aurait des titres dans lesquels Future utiliserait l'autotune de manière assez singulière et personnelle ?
Future, lui, a une utilisation d'autotune qui est un peu dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Enfin, comme je le disais, il s'en sert pour faire des balades, en fait. Il y a cette espèce de dualité dans sa musique, dans le sens où il fait des morceaux dont quand on les entend, on sait très bien que c'est du rap, on entend du rap, et pourtant il est à moitié en train de chantonner, enfin il est complètement en train de chantonner d'ailleurs. Il y a cette espèce de paradoxe qui fait qu'il rappe pas vraiment et pourtant c'est du rap. Une de ses balades autotunées, c'est le troisième morceau que j'ai mis, donc qui s'appelle Turn on the Lights. That hurt in the VIP line with the V10 and the Easter run. Used to drive the Nissan, now she in a Beamer. I don't wanna, cause she from the corner. And I heard that Beamer was a loner. Her old man, the owner. And I don't even drink Coronas. What type of drink you want, bro? No champagne forever. On dirty Sprite forever. You come sit with me if you like to change the weather. If you wanna live better. We can buy a crib wherever. Don't get too thirsty. Get used to the cheddar. I wanna tell the world about you just so they can get jealous. And if you see her before I do, tell I wish that I met. Turn on the lights. I'm looking for one too. I heard she keep her promises, ain't never turned on you. I heard she ain't gon' cheat and she gon' never make no move. I heard she be there anytime you need her, she come through. Turn on the lights. Donc on revient un peu à ce que je disais sur l'autotune comme manière de... Moi je pense surtout au refrain du morceau où il y a cette espèce de voix étirée et je trouve que c'est un très beau morceau. Pour revenir sur un autre aspect du morceau, c'est aussi un hit pop en fait. Pour moi c'est un morceau qui est passé à la radio d'ailleurs, qui a été joué en club et qui est un espèce de morceau crossover. Ça me permet d'illustrer la dernière dimension de Future dont je voulais parler. Qui est son côté star ou aspirant star de la pop finalement. Le morceau qu'on vient d'écouter est produit par Mike Will Made It, qui est encore une fois un producteur star d'Atlanta, qui a travaillé avec des Rihanna, Beyoncé, qui est également présent sur le dernier album de Kendrick Lamar dont on parle au tout début. C'est lui qui a produit les deux premiers singles, Humble et DNA. Et qui a cette espèce de talent pour faire des instrus très simples, qui sont basés uniquement sur des kits de percussion qui sont un peu toujours les mêmes pour être honnête, mais toujours très efficaces et qui donnent des morceaux terriblement accrocheurs.
D'accord, accrocheurs, mais quand on a tendance à parler de quelqu'un qui devient une star ou qui commence à faire des morceaux un peu plus pop, on a peut-être ces visions un peu plus négatives de la musique qui est produite. Est-ce que c'est le cas pour Future ? Est-ce que sa musique s'est entre guillemets dégradée ?
Pour le coup, je reviens encore sur les deux derniers albums qui sont sortis, Future et Hendrix, qui pour le coup, en fait, c'est comme si, pour revenir sur ta question, c'est comme s'il avait séparé les deux en fait. Même si, à l'écoute des albums, c'est pas aussi simple que ça, mais on a d'un côté Future qui est un album très noir, très trap musique, très rap d'Atlanta. L'album s'écoute comme un espèce de tunnel qu'on traverse sans pouvoir regarder dehors pendant. Il doit durer une heure, il est très long en plus. Et d'un autre côté, on a Hendrix qui porte cette deuxième dimension en fait de sa musique. Donc il y a toujours une espèce de balance entre les deux. Mais étonnamment, c'est comme si c'est, enfin, là, dans ses dernières sorties, c'est comme s'il avait essayé de séparer les deux.
Donc, de face, un petit peu bipolaire, peut-être.
Complètement bipolaire, je pense.
Est-ce que ça vient aussi du fait que, par exemple, dans le milieu rap, dès qu'on essaie de faire des choses un peu, entre guillemets, différentes ou peut-être plus pop, plus mainstream, immédiatement, en perdant peut-être pureté originelle ou qui vient d'un milieu comme celui d'Atlanta, par exemple, on se fait très, très vite critiquer. Il y a d'autres rappeurs, tu m'en parlais, qui ont été voir du côté d'autres genres musicaux comme Drake par exemple et qui se font très critiquer pour cette réappropriation. Est-ce que cette manière de séparer du coup les deux styles, peut-être les deux influences pour futur, c'était une manière aussi, ça serait pas une manière de se protéger des critiques ou en tout cas de, voilà, de bien compartimenter les deux?
Je pense que ça, pour le coup, ça tient plus à une démarche artistique de sa part qu'à une logique commerciale. Dans le sens où il a de toute façon un public de base qui le suit énormément et qui adhérera à ce genre de proposition. Et je pense que c'est surtout un choix artistique aussi. Pourquoi ? Parce que l'exigence d'authenticité dans le rap, cette espèce de discours comme quoi le rap devrait pas se diluer dans d'autres genres musicaux, il devrait rester pur, originel, comme à New York dans les années 80. Pour le dire vite, en fait c'est beaucoup perdu et c'est même d'ailleurs dans le rap américain c'est très résiduel. Ça n'existe pratiquement plus cette espèce d'injonction comme quoi un rappeur devrait faire du rap, parler de problèmes sociaux et produire une musique qui soit purement rap. C'est le rap en fait une partie de la pop culture américaine. Il n'y a plus du tout cette espèce d'injonction à rester rap entre guillemets par exemple.
Alors on a parlé un petit peu tout à l'heure des influences de Futur ou en tout cas du fait qu'il s'inscrit dans cette lignée de la trap music. Est-ce qu'aujourd'hui Futur inspire d'autres artistes? Est-ce que son son se retrouve chez d'autres, peut-être aussi transformé là encore? Est-ce qu'il fait des émules aujourd'hui?
C'est intéressant comme question parce qu'il y a deux aspects en fait dans ce que tu demandes. Il y a d'abord sur le plan musical instrumental où en fait ce que fait Future pour le coup est complètement dans l'air du temps et c'est pas lui qui façonne le son qu'il a en fait. C'est ses producteurs et au premier rang desquels comme je disais Metro Boomin qui produit le maître étalon du rap d'Atlanta aujourd'hui.
D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce milieu rap, ça va un peu à l'encontre de notre peut-être idée un peu cliché de l'artiste qui produit un peu tout seul le son dont il rêve et qui lance peut-être des tendances. Là, pour le coup, ça se fait beaucoup, beaucoup avec des producteurs, c'est ça ?
Oui. Ce serait de toute façon impossible d'avoir un tel rythme de sortie en étant tout seul. En fait, le rapport rappeur-producteur est intéressant dans le sens où ils se rencontrent en fait très peu. Ou du moins, sauf dans le cadre dans des cas plus précis de collaboration entre un rappeur et un producteur sur un seul album. Mais là, pour le coup, dans le cas d'albums comme pas tous les albums de Future, de toute façon, sont produits par... Il y a toujours au moins 3 ou 4 producteurs différents. Le côté décomplexé qu'il a, j'ai oublié de prononcer le terme, ma faute, mais le côté, ce qu'on a appelé de l'emo rap, du rap emo, du rap où on parle de ses sentiments. Le fait qu'il est en 2014... Il se soit fait larguer par sa copine qui était Ciara, une diva pop américaine. Et immédiatement à la suite de cette rupture, il sort un album en 2014 qui s'appelle Honest et qui est le point de départ de cette espèce de ligne de force qui l'emmène de plus en plus profond dans la déprime et qui culmine avec Don't Spray 2. Là, j'ai pas tout de suite en tête un exemple précis de personne qui aurait été directement influencée par Future, mais le fait qu'il soit devenu une telle figure de proue pour le rap américain, ça a décomplexé plein de gens, ça a décomplexé plein d'artistes à parler de leurs émotions, parler de leurs sentiments, quelque chose qui ne se faisait pas avant, où on prend par exemple la musique d'un Jay-Z, Nas, des figures comme ça, Big L, des rappeurs new-yorkais des années 90, c'est des gens glaciaux qui parlent pas du tout de... qui parlent par exemple pratiquement jamais d'amour, ou alors dans des termes quand même très codifiés et attendus. Et donc ce côté emo rap, ça a fait l'effet d'un espèce d'énorme décomplexion pour le rap américain. Même ne serait-ce que PNL, ils sont sur le plan des thèmes, parce que musicalement c'est très différent, mais sur le plan des thèmes, ils sont complètement dans cette veine-là d'un rap à cœur ouvert, d'un rap très, très, très émo, je trouve le terme très bien choisi, très émotionnel, très presque des gens auraient tendance à dire fragile larmoyant.
Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, je souris au gardien. Ego, y'a Mowgli dans l'arène. Ciseaux retournés comme papa. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'négocie ta romade. Tes rappeurs, c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Toute ma vie, j'l'ai ramé dans les ténèbres. J'me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Peu demande à mes létas, m'envoie tes lettres. Mowgli n'aime pas qu'on lui dise tes célèbres. Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. Né, pas honte de l'armée, c'est pété, moi j'en pissonner. Né, dans la jungle, tu sauvage, un gros âge pour m'isoler. Le grosse tasse qui déboule sur mon arbre, je les prends en le. Le, j'tacle à la gorge comme un pipi, elle est loin la pum pum. Dis à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes pelles, coca ou ça tire. J'joue pas le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le titi. J'suis de l'époque la Sega, j'm'entraîne à frapper comme ça gâte. Rico Rico, j'débarque, pum ratatata. Fais gaffe, faut hep, c'est pas patatata. J'connais le million, mais chante toujours pas, la 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 la. Entre nous, programmés, ils m'aiment pas, font semblant. C'est chelou, j'suis armé, cœur de pierre, abonné. J'suis Mowgli, j'suis Simba, animal, ça s'entend. M, M, dans leur mère, tu connais. Da, da, da. Bas les couilles pour eux, j'suis N, da, da, da. Bas les couilles, c'est pété même pas, pas, pas.
Et peut-être pour... les gens qui écouteraient cette émission et qui découvriraient Futur pour la première fois et qui auraient envie d'aller écouter Futur un petit peu plus en détail, est-ce qu'il y aurait un album en particulier ou une mixtape que tu conseillerais pour ceux qui veulent découvrir peut-être ?
Alors, mon préféré, c'est Dirty Sprite 2, qui est aussi son plus gros album, parmi ceux de ses albums qui ont le plus vendu. Et c'est moi, c'est mon préféré parce que je le trouve très complet, il montre bien toutes les facettes de Futur. À la fois le morceau qu'on écoutait tout à l'heure, Thought It Was a Drought, qui est très sombre, vraiment. Enfin, pour le coup, ce morceau est quand même atroce. Et vraiment. Ce côté très sombre, noir, torturé. Il y a à côté de ça des morceaux, encore une fois, ce que j'ai appelé des ballades. Et il y a c'est un énorme tube aussi qui s'appelle Fuck Up Some Commas. Et qui est une troisième chose que Futur est capable de faire, dont on n'a pas du tout parlé, parce que c'est pas l'aspect qui me semble le plus intéressant chez lui. Parce que d'autres rappeurs le font très bien, le font même mieux d'ailleurs. Mais ce qu'on appelle ce que la presse rap appelle souvent un street banger, un morceau qui est un tube énorme, un morceau qui a pour vocation unique de retourner des clubs ou retourner des soirées. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un album qui est très complet. On entend beaucoup Metro Boomin, ça me fait plaisir parce que je l'aime beaucoup et que je trouve que c'est... Il a des espèces des fois d'audace dans sa production. Et il est quand même toujours en recherche d'originalité par rapport à plein d'autres producteurs de trap qui se répètent souvent un peu. Donc voilà, pour moi, Dirty Sprite 2, c'est l'espèce de diamant noir de Futur, l'album où il est au sommet de sa noirceur. et en même temps au sommet de son potentiel de star.
Quelques petites indications, on vous laissera évidemment des liens sur la page de l'émission, des liens vers des vidéos, des liens vers des articles que Fabrice a mentionnés pendant l'émission et qui peuvent vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur Future et sur la scène d'Atlanta. Également, deux émissions en particulier, deux émissions qui se font en ligne, ce sont des podcasts. Je voudrais parler d'abord du Mike et de l'Enclume, c'est une émission qui est produite par Arte Radio, qui s'occupe de musique urbaine et culture rap sur donc Arte Radio, qui ont parlé dans leur septième numéro de Future. Et surtout, je pense à une autre émission qui est toujours excellente, je trouve, dans leur critique rap. Il s'agit de No Fun. Quelques mots peut-être sur No Fun, Fabrice. Est-ce que toi, tu écoutes? Est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez eux?
Ouais, le No Fun Show, ils sont très très forts. Moi, c'est des journalistes en fait que je suis depuis avant qu'ils lancent ce podcast qui est disponible sur SoundCloud. Leur chaîne s'appelle No Fun tout court, je crois, ou le No Fun Show. Mm-hmm. Et moi, ils m'impressionnent. Ils sont vraiment, ils sont tous très 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 pointus. Beaucoup plus que moi, j'ai pu l'être d'ailleurs au cours de cette émission. Je sais pas où et quand ils trouvent le temps d'écouter tout ce qu'ils écoutent parce qu'ils sont toujours. Au fait, ils ont à la fois une espèce d'acuité sur les nouvelles sorties. Mmh. Ils sont toujours très à la pointe de ce qui se fait, de ce qui sort en rap actuellement. Et en même temps, une profondeur de champ, parce que c'est des mecs qui écoutent du rap depuis très très longtemps. Et donc, ils ont toujours une espèce de vision, de recul sur la musique dont ils parlent. Et qui fait que leur point de vue est toujours très intéressant. Et au-delà de ça, même sur le plan de la forme, il y en a notamment un des membres de l'équipe qui est... Je sais pas s'il est présent sur toutes les émissions, en tout cas il est toujours là quand il parle de rap américain, qui s'appelle Nicolas Pellion, et qui en plus a un espèce de sens de la formule incroyable, et des angles d'attaque qui sont toujours originaux, enfin big up à eux, ils sont très très forts. Pour les gens que ça intéresserait, ils sont à l'origine de tous les intervenants dans cette émission, ils viennent d'un site qui s'appelle l'abécédaire du son, qui est le probablement, enfin à mon sens en tout cas, le meilleur webzine sur le rap qui soit écrit en français.
On mettra évidemment les références sur le site de Transistor. Et donc, un message à faire passer, allez écouter No Fun Show parce que c'est très très bien. Leurs critiques sont toujours très pertinentes, même pour ceux qui n'écoutent pas beaucoup de rap comme moi. J'ai beaucoup de plaisir en tout cas à les entendre débattre. C'est toujours très intelligent à chaque fois. Et effectivement, ça a l'air très informé, même pour les néophytes.
Et des fois, ils parlent d'autre chose que de rap en plus. Enfin, c'est rare, mais il y a des émissions où ils évoquent... Ils ont fait une émission sur le dernier album de Jamiroquai, par exemple. Enfin, ils sont quand même spécialisés rap, mais ils parlent de... Et ça leur arrive de parler d'autre chose.
Et bien, c'est sur ce mot qu'on va conclure l'émission. On va la conclure par le dernier titre que tu as amené. Peut-être quelques mots de présentation sur ce dernier titre de Future.
Alors c'est Codeine Crazy, je l'ai choisi, en fait à vrai dire je l'ai choisi surtout pour me donner une excuse pour mettre le lien dans la vidéo dans la description. Mm-hmm. Parce que allez la regarder, elle est complètement incroyable, il y a des chevaux, des filtres violets, des images tordues et tout, c'est incroyable, légendaire. Codeine Crazy. Yeah, pourin' bubbly, pourin' bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly. We done went through too much. Hear me? Pour that bubbly.
Merci d'être resté à l'écoute de ce double numéro consacré à Future. Un immense merci également à Marie Lécuyer à la technique et à Fabrice pour s'être prêté au jeu de la conversation autour d'un sujet qui le passionne. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année déjà, et puis sur internet et les réseaux sociaux pour plus de musique. Et d'ailleurs, pour préparer la rentrée prochaine, dites-nous, chers auditeurs, ce que vous avez préféré cette année en termes de numéros. Les épisodes thématiques, comme celui d'aujourd'hui à la découverte de la carrière d'un artiste, les chroniques consacrées à un album, celles dédiées à un label, ou alors l'entretien avec un groupe, comme Requin Chagrin en octobre dernier. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos envies, comme aller à la rencontre des disquaires lyonnais, faire la couverture de concerts à Lyon. Bref, envoyez-moi vos idées sur le site de Transistor ou la page Facebook de l'émission. Passez une très belle semaine à l'écoute de Transistor, et n'oubliez pas d'ouvrir bien grand vos oreilles. I say everything triple time, roll it AP Hublot triple time. I just know the ones to call upon. I just had to pay my dog a bond. Looking at me like a triple threat. Every time a nigga talk a check, smoke the cushion like a cigarette. Running back to hear my internet. So
celebrate like the championship. Celebrate like the championship. Celebrate like the championship. Celebrate like the championship. I told you, I told you, I told you, I told you. Don't tell me you sell the bin to the moolah. I just went rent the ruler with the jeweler. I just went sell the payin' like a goonie. I put diving niggas straight out the shoe. Like a loaded chopper, I'm about to shoot it. I'm so fucking sick and tired of these rumors. I just dive inside a cutie with spooner. Take it back and take a look at yourself. Take the lesson, put it all in the air. Too many days gone by. Sit by the phone, wait until I reply. Dry my eyes, believe it or not. I can never see a tear falling. Water dripping on me like a faucet. I just took a bitch to eat at Chipotle. Spend another 60,000 on the rolling. All my diamonds got your brainwashed. She saw my dick, I got my brain washed. And for that shit, she got your man pop. See what they did to Biggie and Pop. Pour a little love.